Bonjour à tous. J'ai l'habitude et le plaisir de prêcher une fois par an ici, donc c'est aujourd'hui. Comme Corinna a dit dans la première partie du culte, c'est l'été. Et pendant cette période de vacances, beaucoup d'entre nous se réjouissent de temps libre qu'ils ont davantage. Être libre de certaines tâches quotidiennes, libre d'un agenda souvent trop dense, libre des horaires scolaires et des devoirs, et libre du travail. Tout cela est extraordinaire. Ce sont des acquis sociaux de nos ancêtres qu'on veut plus en passer. Grâce à ces acquis, nous sommes libres pour se reposer, libres pour partir en voyage ou simplement libres pour flâner et le faire niente. C'est pourquoi j'ai choisi de partager aujourd'hui avec vous quelques pensées sur la liberté. Si on regarde dans un dictionnaire, on trouve déjà quelques pistes. Wikipédia dit « En philosophie, en sociologie, en droit et en politique, la liberté est une notion majeure. Elle marque l'aptitude des individus à exercer leur volonté. La liberté est l'absence de soumission, de servitude, de contrainte. Et dans un sens positif, la liberté est l'autonomie et la spontanéité du sujet rationnel. Les comportements humains volontaires se fondent sur la liberté et sont qualifiés de libres. Au-delà du temps libre pendant les vacances, la liberté de l'homme est tellement importante qu'on le trouve dans la Déclaration des droits de l'homme, article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et depuis le XVIIIe siècle, on le trouve l'idéal de la liberté dans les constitutions des démocraties modernes. Mais la base de ces pensées est encore plus ancienne. Il y a 500 ans, la liberté d'un chrétien était une question centrale pour Martin Luther. Cette année, nous célébrons l'anniversaire de la Réforme. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur les pensées de Martin Luther, sur la liberté et les bases bibliques de ce sujet. Je vous invite à un voyage d'exploration, une expédition à la découverte de la liberté chrétienne en trois étapes. La liberté et le manque de liberté chez les hommes. La liberté intérieure et la liberté extérieure. Et troisièmement, libérer pour servir Dieu. La liberté et le manque de liberté chez les hommes. Deux écritures de Luther, les plus connus, parlent de la liberté. En 1520, Luther a publié le texte de la liberté d'un chrétien et 5 ans plus tard, le traité du serf-arbitre, ce qui est le contraire du concept de libre-arbitre de Erasme et ce que veut dire la volonté non libre. Est-ce que c'est une contradiction ou est-ce que Luther a changé son avis? Non. Les deux textes montrent les différents niveaux de la liberté. Au premier niveau, dans le monde, nous avons une certaine liberté. Nous avons la liberté du choix. Par exemple, si on veut manger à midi des pommes de terre ou des pâtes. Personnellement, moi, je préfère des pâtes. Ou nous avons la liberté d'action. Par exemple, si on veut faire du sport cet après-midi, ou plutôt rester devant la télé. Je vous ne dis pas ma préférence. Mais il y a des déterministes qui doutent que la liberté de choix ou la liberté d'action existe vraiment. Mais Luther ne fait pas partir d'eux. Au contraire, Luther pense qu'avec l'Évangile, le choix et les marges de manœuvre augmentent nettement pour l'homme. Car quelqu'un qui croit en Christ ne se laisse pas imposer ce qu'il doit faire ou non. Mais au deuxième niveau, dans notre relation avec Dieu, Luther nous voit impliqués dans une non-liberté profonde. Non-liberté profonde. Pour lui, le libre arbitre est une contradiction en soi. Luther était convaincu, même si un homme peut parfois faire ce qu'il veut, il ne peut jamais vouloir ce qu'il veut. Par exemple, l'homme ne peut pas prendre la décision d'avoir confiance, d'aimer ou d'espérer. Luther dit, dans le traître du Serf-arbitre, « Nous sommes soumis au Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable. Sans le recours de l'esprit du vrai Dieu, nous sommes prisonniers de sa volonté. » Prisonniers du Dieu de ce monde. Déjà le père de l'Église, Augustin, a dit « L'homme est incapable de ne pas pécher. » Quand l'homme est libre de faire ce qu'il veut, il est souvent un serviteur du péché. Pour Luther, ce n'est pas différent chez les chrétiens. Nous sommes d'abord des pécheurs qui cherchent leur propre bénéfice avant de faire ce qui est bon selon Dieu. Par nos propres efforts, nous ne pouvons pas faire le bon et nous ne ferons jamais le bon. C'est là le grand manque de liberté chez les hommes. Nous avons besoin du pardon et de la grâce. C'était la grande découverte de Martin Luther. Sola gratia, seulement la grâce, est un de ses quatre messages principaux. Nous sommes les enfants de Dieu, mais pas par notre propre volonté, pas par notre libre arbitre, pas par notre choix. Nous sommes les enfants de Dieu seulement par la volonté de Dieu, par l'action de grâce en Jésus-Christ, par sa volonté de nous aimer et de nous pardonner. Luther le voit d'une manière radicale. Nous sommes des prisonniers de péché, mais Christ nous a libérés. Nous avons réfléchi sur la liberté dans ce monde et la liberté auprès de Dieu. Dans cette deuxième partie, nous voulons méditer sur deux autres notions de la liberté intérieure et la liberté extérieure. La liberté, dans son sens biblique ou dans la compréhension judéo-chrétienne, est toujours le résultat d'une action de libération. Pour les Juifs, c'est l'expérience de l'exode de l'Égypte. Nous avons lu tout à l'heure dans l'Exode 20, versets 1 et 2. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. » Ces paroles sont l'introduction des 10 commandements, ou plutôt l'introduction du décalogue, ce que veut dire les 10 paroles. Dieu se présente ici aux Juifs comme le libérateur. Il est le Dieu de liberté qui parle ici. Avec les 10 paroles, Dieu veut continuer son œuvre de libération. En donnant des instructions éthiques, Dieu veut éviter que son peuple perde à nouveau sa liberté. C'est pourquoi le premier verset est la clé pour comprendre les commandements. La liberté est au cœur de ces commandements comme Dieu est un Dieu libérateur. Pour nous, chrétiens, l'acte central de libération est la crucifixion et la résurrection du Christ. Nous avons lu tout à l'heure dans Galates 5, verset 1, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. » Les deux versets de l'Ancien et du Nouveau Testament sont directement liés. Nous, les chrétiens et les juifs, nous avons en commun que la liberté, dans son vrai sens, ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. C'est la grande différence par rapport au concept de la liberté dans ce monde. Dans la philosophie, la liberté est quelque chose qu'il faut acquérir. Dans la Bible, la liberté est quelque chose qui ne peut que être offert. C'est Dieu qui nous donne la liberté. Il y a une différence entre la liberté dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle souvent de la libération extérieure, la libération de l'esclavage, de la pauvreté, de l'oppression. Le Nouveau Testament parle primairement de la libération intérieure. Mais lesquelles sont les chaînes de l'esclavage dont Paul a écrit dans ce verset en Galates 5? Par exemple, Paul dit dans l'Épître aux Romains que nous devons être libres de quatre puissances. Premièrement, de la colère de Dieu et sa punition, Romains 5. Du péché et des conséquences et de ses conséquences, Romains 6. Des contraintes de la loi, Romains 7. Et de la mort, Romains 8. C'est un choix étonnant de Paul. Entre les milliers de possibilités, Paul a choisi ces quatre pouvoirs dont l'homme doit être libéré. Paul ne parle pas de la liberté politique ou de l'injustice sociale qui mène à la pauvreté. Il ne remet pas en question ou en cause l'esclavage qui est omniprésent dans la société de l'époque, dans l'Antiquité. Pour Paul, une libération intérieure a plus d'importance qu'une libération extérieure. Sans doute, la liberté extérieure est importante, mais la liberté intérieure, selon Paul, est encore plus importante. Encore une fois, pour être clair, la liberté extérieure est tout à fait désirable, même plus. La liberté politique, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de voyage, la liberté du métier. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit dans certains pays le retrait de la liberté. Et aucune société a l'appris. Et je pense que chaque génération, nouvelle génération, a le devoir de préserver et de garder la liberté extérieure. Mais la liberté intérieure est une condition pour la liberté extérieure. L'Ancien Testament, qui met l'accent sur la liberté d'extérieur, n'est pas remplacé par le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament est complété. Car plus important que la liberté extérieure est une indépendance intérieure des cinq circonstances extérieures qui sont souvent peu changeables. Et souvent, c'est la liberté intérieure qui nous permet de changer les circonstances extérieures. Par exemple, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela ou Martin Luther King, ils vivaient dans des circonstances extrêmement difficiles. Mais leur indépendance intérieure leur a permis d'obtenir aussi une liberté politique. Donc, est-ce qu'on peut dire une liberté intérieure est plus important qu'une liberté extérieure? Cela nous semble provoquant. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer les injustices, les oppressions et les multiples formes de l'esclavage. Au contraire. Mais sans liberté intérieure, toute autre liberté reste incomplète. Le Nouveau Testament ne dit pas, ne cherche pas la liberté extérieure. Mais il dit, cherche d'abord la liberté intérieure. Pour Martin Luther, la libération était une expérience fondamentale dans sa vie. C'était une libération intérieure comme extérieure. D'abord, une libération de sa peur, de la colère de Dieu et de ses implications dans le péché. Mais ensuite aussi, une libération des lois et des traditions de l'Église qui étaient mélangées avec le pouvoir politique de l'époque. Cela lui donne la liberté de conscience et le courage de dire devant l'empereur « Je ne peux ni ne veut me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour. Je ne puis faire autrement, que Dieu me soit en aide. Mais l'origine de son processus de libération, qui était d'abord une libération intérieure, cette origine était l'étude de l'épître de Paul aux Romains. Le propos de Paul, la libération de quatre pouvoirs, la colère de Dieu, les péchés, la loi et la mort, était bouleversant pour Martin Luther. Tellement bouleversant que Luther a changé son nom de famille, parce qu'il ne s'appelait pas Luther. En 1516-17, encore avant la proclamation de 95 thèses, il a modifié son nom de famille original, Luder, en Luther, car cet orthographe se rapproche du mot grec Eleutherios, ce que veut dire être libre, être libéré. Donc Luther a choisi le nom de famille être libéré. Libéré pour servir Dieu. Nous avons regardé la liberté dans ce monde et la liberté auprès de Dieu, aussi la liberté extérieure et intérieure. Dans la troisième partie, nous voulons réfléchir encore sur un autre aspect de la liberté. Être libre de quelque chose et être libre pour quelque chose. En 1936, l'auteur allemand Stefan Zweig a écrit dans son roman « Conscience contre violence » qui met en scène le combat entre Sébastien Castillon contre Jean Calvin. Il a écrit « La liberté n'est pas possible sans autorité, sinon elle mène au chaos. Et l'autorité n'est pas possible sans liberté, sinon elle devient une tyrannie. » Même si Zweig parle d'abord de l'Église, cette dialectique décrit aussi notre relation avec Dieu. Dieu n'est pas un tyran. C'est pourquoi il nous donne la liberté. Mais Dieu nous donne aussi des règles. Sinon, la liberté mène au chaos. Dieu nous libère de la colère, du péché, du pouvoir, de la loi et de la mort. Pourtant, Dieu nous charge aussi d'utiliser cette liberté pour propager la foi, l'espérance et l'amour dans ce monde. La plupart des hommes comprennent que la liberté est un plus grand nombre de possibilités, un maximum de choix, un minimum de liens. Le but est la liberté maximale de quelque chose, mais cette liberté est une illusion. Car chaque choix qu'on fait élimine aussi d'autres options et détermine la suite. La liberté, dans un aspect de notre vie, mène à un manque de liberté dans une autre partie de notre vie. La liberté reste relative. Il reste la question pourquoi nous sommes libres. À quoi faire? Si nous, chrétiens, disons que Christ nous a libérés, nous disons d'abord que Christ nous a libérés de quelque chose, de l'esclavage du péché, de la mort. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté? Pour quel but nous sommes libérés? Martin Luther développe dans son traité de la liberté d'un chrétien une thèse double. Le chrétien est l'homme le plus libre. Maître de toutes choses, il n'est soumis à personne. L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs. Il est soumis à tous. Cet opposé évolue par Luther. La libération par le Christ mène à la liberté. Une indépendance intérieure et une liberté de conscience qui peut aussi permettre une liberté extérieure. C'est pourquoi le chrétien ni soumis à personne. Pourtant, cette liberté n'est pas la fin, le but ultime, mais elle n'est que le début d'un chemin de Dieu avec nous. Maintenant, c'est important d'utiliser la liberté donnée par Jésus d'une manière responsable. Si nous voulons vraiment être libres, il faut arrêter de se tourner autour de nous-mêmes. Pour Luther, c'était clair, il faut servir Dieu. L'homme chrétien est en toute chose le plus serviable des serviteurs. Pour Luther, c'était clair comment il faut utiliser la liberté donnée par le Christ. Aller aux autres, les aider, les aimer et les inviter à suivre le Christ. Jésus nous a donné comme exemple en Marc 10, verset 45, nous pouvons lire. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Jésus a guéri des malades, il a libéré des obsédés, il a réconforté ceux qui sont chargés et fatigués. Et finalement, il a donné sa vie à la croix pour nous. Oui, nous sommes libérés pour servir Dieu. Mais si nous servons Dieu, nous allons découvrir de plus en plus que c'est Dieu qui nous sert en tout. Celui qui sert Dieu ne perd rien, mais Dieu lui rend tout. Comme cela, nous devenons effectivement maître de toutes choses. Comme Luther a dit, maître de toutes choses. Nous allons découvrir aussi que servir Dieu nous donne finalement la plus grande liberté. Mais avec le terme « servir » et le concept d'être libéré pour servir Dieu, est-ce qu'on a renversé l'idéal de la liberté? Non, parce que dans la Bible, servir, il y est à aimer. Donc, l'amour n'est pas une restriction de la liberté, mais son but. Mais quelles sont les limites de la liberté chrétienne? Pour Paul, c'est une question importante. Il dit 4 fois dans son premier épître aux Corinthiens, dans 6, verset 12, chapitre 6, verset 12 et 10, verset 23. Il dit 4 fois, « Tout m'est permis. » Et il ne met pas en cause cette phrase. Il dit, « Oui, c'est vrai. » Mais après, il continue. « Mais tout n'est pas bon pour nous. Mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Mais tout ne construit pas la communauté. » Peut-être ces trois questions peuvent nous guider avant des décisions importantes. Est-ce que c'est bon pour nous et les autres? Est-ce que cela nous lie à quelque chose? Est-ce que cela sert aux autres? Presque 400 ans après Paul et plus que 1000 ans avant Martin Luther, le père d'Église Augustin résume sur la liberté chrétienne. Aime et fais ce que tu veux. On pourrait le dire aussi autrement. Fais ce que tu veux, mais aime. Et avec Martin Luther, nous pouvons dire « Toute notre recherche de la liberté trouve son but dans l'amour de Dieu. L'homme ne peut pas être libre, mais il peut se laisser combler par la liberté de Dieu. Nos efforts à chercher le ciel restent toujours insuffisants. Dieu nous cherche, ça suffit. Il est le Seigneur de grâce qui remplit nos mains avec la vie. Nous sommes des mendiants, c'est bien vrai. Mais si nous sommes confiants que le Créateur du ciel et de la terre nous donne tout, il n'y a rien de plus saint et de plus majestueux que d'être un mendiant de Dieu. Amen.